Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Ce soir, nous avons la joie d'avoir dans nos studios de la rue de la Salie, Franck Bardou.
Bonjour.
Franck Bardou, bonsoir. Merci beaucoup d'être venu ici, dans ce studio qui t'est maintenant familier, et dans cette maison qui correspond totalement à une des grandes parties de ta vie, c'est-à-dire la sauvegarde et le développement de la culture occitane.
Voilà, exactement.
Alors, Franck Bardou, tu viens ici, nous avons fait une émission, une première émission où on avait évoqué, d'une part, bien entendu, ton œuvre, mais également ton travail merveilleux sur René Nelly. On espère que l'on pourra poursuivre cet entretien avec toi sur René Nelly. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Franck Bardou, le poète. Alors, Franck Bardou, le poète, qui est membre de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, hein, puisque tu es maître aigeux de cette académie, qui est né d'ailleurs à Toulouse, et tu écris en occitan. Hein, alors, en occitan, depuis 1989, ça a été l'année de ta révélation,
oui. Hein,
je crois, dans le domaine de l'écriture occitane.
C'était pendant que j'étais un civil occitan incarcéré dans l'armée d'occupation française.
Dans 1989, et tu collabores à plusieurs revues, dont la revue Oc, dont tu vas nous parler dans quelques instants, hein, de ces revues. Tu es, depuis 2011, le rédacteur en chef d'une revue, d'ailleurs, dont tu vas nous parler également, une revue que l'on reçoit, bien sûr, ici, Radio Occitanie, qui est la revue du Guessaber, hein, la revue du Guessaber. Et puis, tu es l'auteur donc de cette thèse de doctorat que j'évoquais tout à l'heure sur l'œuvre et la pensée de René Nelly. René Nelly qui a vécu de 1907 à 1982. Et comme je l'ai déjà dit, tu es membre de l'Académie des Jeux de Toulouse, mais tu es membre également de l'Académie Occitano.
Hein, l'Académie Occitano. On travaille à établir un occitan standard utilitaire. Qui me sert à moi de langue littéraire, mais on pourra en reparler.
Ouais. Alors, en dehors de ces activités, tu es enseignant et tu es l'auteur de recueils de poèmes, hein, tels que Film d'Elsers en 1995, qui a eu le prix Paul Formand l'année suivante. Hein, voilà, Film d'Elsers. Tu es l'auteur de Cans d'Elsers, 1996. La Clédon, tu me dis si je prononce bien ou pas.
For plat.
Merci. En 2003. Bon. L'Atlas London.
London.
En 2006. L'Arbre de Miel, donc en 2010. Et des recueils dont nous allons parler particulièrement donc ce soir, c'est Fox Alwell Else et Sede de Brazos, hein, en 2013. Et L'Aide au nom de l'Esperavas Paz et le manifeste littéraire consigné par les écrivains de cette génération au sein du mouvement Descobertista. Voilà, Tisto. 1998, et bien sûr, Cancioniere d'un temps esperdut, chansonnier d'un temps éperdu. Voilà.
Voilà.
Alors, cette pratique poétique qui est la tienne a été traversée par celle des troubadours. Nous avons eu l'occasion, avec Gérard Zucchetto, d'en parler et d'évoquer, évidemment, ton travail à cette occasion. Et cette pratique, elle s'articule autour de ce que tu appelles les rythmes denses, hein, hein, c'est-à-dire une perspective hallucinatoire ou visionnaire qui ouvre l'imaginaire des textes à tous les possibles. Alors, ceci t'a valu un prix important, c'est le prix Goudouli, de l'Académie du Languedoc, hein, Académie du Languedoc, pour l'ensemble de ton œuvre poétique en 2011. Dans ce livre chansonnier d'un temps est perdu, c'est le fruit d'une collaboration avec les compositeurs contemporains Gérard Zucchetto et Sandra Hurtado Ross, qui est Madame Zucchetto.
Oui, également.
Voilà. Alors, tu as écrit de la prose aussi, bien sûr, et Franck Bardou, tu as publié deux recueils de nouvelles. Alors, quels sont ces recueils? Je te laisse les lire.
Quelques balles d'un appel, quelques balles dans la peau. Oui. Avant cela, j'avais publié Darenla, à l'IEO, qui était un recueil composite comprenant des textes d'inspiration héroïque fantasy, suivant l'école de Tolkien. Mais très modestement. Et la deuxième partie qui a beaucoup plu au petit monde universitaire occitan, qui était chevillé au corps par les souffrances et les horreurs de la période contemporaine. J'y travaillais d'une manière déjà un peu décentrée, un peu bizarre. Beaucoup de lecteurs et de romanciers sont intéressés par le roman policier, l'enquête. Moi, quand la police arrive, ça m'intéresse plus. Je m'en vais. Je suis Léo Ferré, je m'en vais par les rues. Je n'embrasse pas les flics, comme certains, qui ont un retour d'âge assez difficile. Ce qui m'intéresse, c'est le regard du criminel, le regard de la victime et le regard impuissant du témoin. Ces trois regards croisés font la nouvelle. J'ai passé un temps où je réagissais directement à l'actualité, soit par des poèmes, ça continue, soit par des nouvelles, mais là, je ne sais pas pourquoi, la source s'est arrêtée, elle s'est tarie. Peut-être la sécheresse, le réchauffement climatique, ça reviendra peut-être. C'est très capricieux, l'inspiration.
En tout cas, espérons que ça reviendra aussi sous forme de poème.
Totalement. Oui, là, de ce côté-là, elle est, pas, voilà, elle est voilà, assez fidèle.
Bon. Alors, on va parler de ces recueils, de ces livres. Hein. Il faut mieux dire livre de poèmes. Le recueil de poèmes, hein, parce que bon, oui. Livre, c'est vraiment des livres. Alors on va commencer par ordre chronologique, tout simplement. Alors en quand même disant deux mots sur l'éditeur, hein, des éditions Troubavox, hein,
voilà.
Qui fait là un travail vraiment somptueux, mais ce sont des très belles publications, en particulier donc, les deux premières dont nous allons parler, hein, là où tu l'attendais le moins, c'est Feu dans les yeux, j'ai soif de braise, qui sont de très beaux livres avec une couverture cartonnée, magnifiquement illustrée. On parlera de l'originalité des illustrations, bien sûr, hein, dans un grand format et avec une présentation extraordinairement intéressante et je dirais vraiment un vrai plaisir d'avoir ce livre entre les mains, du fait bien sûr des illustrations qui en font un véritable livre d'artiste, hein, en réalité, mais également de la mise en page, hein, qui est toujours très très soignée, enfin, c'est vraiment fait.
La mise en page est l'œuvre de Céline Deschamps, qui est une artiste elle-même, une photographe, qui ne fait pas que de la mise en page de livres. Et je la salue parce qu'elle nous a fait un travail extraordinaire, y compris les couvertures.
Oui, très beau.
Elle parle toute seule.
Alors, Franck Bardou, on commence par ceci. Feu dans les yeux, j'ai soif de braise. Alors, tu vas nous parler tout d'abord des illustrations s'intègrent complètement. Sont partie intégrante de l'œuvre qui est là-dedans. Hein. Ce n'est pas pour illustrer un texte. Je dis que l'illustration elle-même est quasiment une création qui s'ajoute à la création des poèmes.
Nous avons fait un choix a posteriori de certains de mes dessins. Je dessine, c'est un passe-temps qui m'est assez cher. J'ai toujours dessiné depuis avant même que je sache écrire, donc c'est quelque chose qui m'est très naturel. Il faut savoir que quand je commence à dessiner, je ne sais pas davantage ce que je vais dessiner que lorsque je commence à écrire, je ne sais ce que je vais écrire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il semblerait que la main sache pour moi où elle veut aller. et que petit à petit prend forme quelque chose. Ensuite, une fois que la structure générale est posée, le sujet semble s'imposer. Il y a effectivement une codification symbolique que l'on retrouve dans les poèmes par ailleurs, qui est la même, je veux dire, elle est récurrente. Et on retrouve notamment ce qui m'a gêné un petit peu lorsqu'on a voulu évoquer mes deux publications ici présentes en Iran. Lorsque Manigé nourrit une des 12 représentantes du soufisme mondial féminin est allée en Iran pour évoquer les échanges culturels avec le monde occitan et le monde persan, elle a été gênée pour montrer mon livre, parce qu'il y a des dames nues, ce qui ne se montre qu'assez peu en Iran à l'heure actuelle, ça n'a pas toujours été le cas. Que représente cette dame nue? Elle est mon âme. Mon âme est une femme nue qui n'a rien à cacher, contrairement aux mensonges du personnage qui s'invente ceci, qui s'invente cela, et qui n'est que du passé en attente d'être passé, et qui n'a donc aucun intérêt particulier que celui de la fatalité. Ici, sur cette illustration notamment, on voit un aveugle qui, à l'aide de son bâton, il est habillé, l'aveugle, tâtonne pour voir dans le sol où se sont posées les empreintes de la jolie dame nue qui avance dans les ténèbres une torche à la main. Et souvent, on voit cette dame nue tourner, non pas vers quelque objet de désir sexuel, mais vers un oiseau, qui représente l'esprit. L'esprit étant complètement transpersonnel. Il est bien évident, c'est une figure du soi, l'esprit, que la dame est une figure animique, elle m'anime, elle me donne une direction à suivre. Aussi bien dans le réel, lorsque je suis amoureux, encore qu'on peut toujours se demander ce que l'amour a à voir avec le réel, ça se discute, disons. Et disons que c'est du surréel, ça prend du réel pour le transformer et nous en nourrir. Et d'autre part, c'est elle qui nous guide vers le sens appartenant à l'esprit et non pas au moi. C'est-à-dire que lorsque je raconte ma vie, je n'escompte pas y trouver du sens. Par contre, j'escompte trouver le sens comme on rencontre avec surprise quelqu'un qu'on attendait depuis longtemps, mais dont on ne connaissait plus l'adresse. Alors, cette adresse, c'est l'oiseau. On se tourne donc vers l'oiseau, il y est souvent. Oui. Et l'autre forme récurrente d'illustration, ce sont des mandalas, qui cherchent à structurer une âme qui se cherche en général. C'est un peu une carte de l'âme, un mandala, qui présente des figures d'opposés, des figures de complément, et qui donne à aller se chercher autre chose que ce que l'on croit toujours être, soi. Par exemple, lorsque je déclare que je suis un homme né à telle date à Toulouse, je déclare que je ne suis pas une femme. Donc sur le mandala doit apparaître quelque part d'une manière ou d'une autre une féminité. Parce que la totalité est aussi bien masculine que féminine, aussi bien noire que blanche, aussi bien sèche qu'humide. On retrouve les figures d'opposition de l'alchimie traditionnelle et de beaucoup de traditions symbolistes.
Avec... filigrane de la table d'émeraude.
Totalement. Qui est caché quelque part dans l'un des textes du recueil Feu dans les yeux chez Soif et Braise.
Alors, il y a là tout un symbolisme, bien sûr, mais tout un ésotérisme.
Certainement.
Par exemple, là, je tombe sur une nation où on voit la rose, la croix occitane, la rose des rosicruciens, par exemple, la lune, mais la lune orientale, vraiment de
oui. Voilà. C'est le réceptacle pour recueillir la colombe,
voilà. La colombe, donc l'esprit, l'oiseau dont tu parlais, qui est l'esprit. Et puis ces deux mains dans lequel a l'air de surgir dans la lumière cette rose. Alors moi j'étais étonné quand même, j'avoue que je ne connaissais pas cet aspect de ta création, et j'étais étonné à la fois par la beauté graphique, si tu veux, des dessins, mais également cette puissance d'évocation. Alors, dans ce symbolisme, et aussi dans l'ésotérisme quand même. Voilà. Et alors ça, bien entendu, ça, c'est difficile, on peut difficilement... faire passer ça à la radio, mais ce que je tiens à dire, c'est que vraiment dans ces deux recueils là, Feu dans les yeux, j'ai soif de braise, et là où tu l'attendais le moins, c'est vraiment là on va découvrir un Franck Bardou dans la totalité, je dirais, dans la plénitude vraiment de sa création et de ce qu'il est, de ce qu'il est en train de faire, de faire naître également. Hein. Mm-hmm. Voilà. Et ça, c'est très bien que des éditions aient pu le concrétiser. Ça, voilà. C'est vraiment très bien.
C'est un travail associatif assez exemplaire, Troubaforce.
Ah, oui.
C'est la maison qui édite à la fois la musique du Troubadour Art Ensemble et des groupes qui y sont plus ou moins associés, et qui édite de la littérature médiévale poétique occitane et contemporaine occitane. On édite aussi des acteurs de la culture et de la poésie occitane comme Jaume Privat, qui est également plasticien. Non. On va éditer Roland Pécou, on cherche d'autres, j'ai d'autres contacts aussi à proposer à l'édition pour faire vivre la littérature, les subventions publiques qui nourrissent, lorsqu'elles la nourrissent, l'association, sont intégrées à l'édition de musique ou de livres, mais lorsqu'il y a retour sur investissement, l'argent revient dans la caisse de l'association pour financer d'autres créations. C'est-à-dire que c'est un cercle fermé. Une fois que l'argent public a permis de créer de l'œuvre en occitan ou en plusieurs langues, dont l'occitan, elle y revient.
Oui.
C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est à jamais de l'argent public pour servir la culture du peuple occitan. Et c'est une conception que nous avons empruntée à Jordi Savall, un catalan, qui travaille lui exclusivement sur la musique, mais qui fait aussi lui des livres accompagnés de musique. Il a travaillé là-dessus à récupérer de l'argent, alors lui privé, puisqu'il avait une autre audience mondiale.
Oui, mais en Catalogne, c'est déjà, il y a une tradition.
Il y a des fonds privés de mécénat.
Depuis longtemps.
Mais qui, une fois versés dans AliaVox, servent automatiquement à alimenter la créativité des artistes d'AliaVox. Et je trouve ça absolument génial.
Très bien.
Et je salue donc Gérard Zoguet, qui a eu cette idée et qui a suivi sur sa trace Jordi Savall dans ce fonctionnement économique et associatif.
Alors, Gérard Zugato, justement, nous allons l'écouter maintenant avec la mise en musique et le chant d'un de tes poèmes qui s'appelle Desnus.
Desnus.
On l'écoute.
Trau côté des selles et des terres. Pastote d'arbre de sasu, so quien seras vende soqueros, de joy perenla la razú. Sabo e sabu de tut misteri, sabo e sabu de tut misteri. La fraba de tutto a baso, e la calenne la clartat, per non sa for tutto a caso, contro la fera cruzeta, che tutto soldamo le guaraso, che tutto soldamo le guaraso. Desnus stan laurasso, car ancora tutto falsio, già che le tutto vantale un passo, come delle spadolassie, tre che d'orgueglia rimu passo, tre che d'orgueglia rimu passo. Esser che spasen da colmai, cal dintre detta dignità, e te va tutta morrai, già che sfonde tutta clarta, so calautre tu broacciamai, so calautre tu broacciamai, so calautre tu broacciamai. So calau tre tu acciai.
Voilà, Gérard Zucchetto, donc, qui chantait Franck Bordoux. Desnous, voici le texte en français. Perce-toi de ciel et de terre, pétris-toi d'arbres et de saisons. Ce que tu en seras vient de ce que tu étais, de par l'exaltation d'amour, et au-delà de toute raison, sève et saveur de tout mystère. De l'accablé que tout effondre, prends le désir et la clarté, pour hausser forte ta maison contre la sauvage cruauté qui détruit tout ce qui vient d'amour. Lève-toi nu dans la tempête qui arrachera tout mensonge, car tout ce qui est vain passe aussi vite que l'acier de l'épée dès que s'étouffe la rumeur de l'orgueil. Et ne cherche pas ailleurs qu'au cœur de ta dignité même à t'élever rayon d'amour, car est source de toute clarté ce qui t'œuvre à l'autre à jamais. Voilà. Alors Franck, on va te demander de nous lire un extrait de Feu dans les yeux. J'ai soif de braise.
Alors ce texte que je vais lire clôt une première partie qui se veut initiatique. J'entends par initiatique ce qui nous initie à un chemin, autrement dit qui nous file un coup de pied aux fesses. Et c'est donc à la suite d'un épluchage d'oignons, où chaque fois on croyait s'être débarrassé de ce qui nous encombrait, et où autre chose se révèle nous encombrer encore, dont on se débarrasse à nouveau, lorsque l'épluchage est terminé, ce chant s'élève. Il est construit sur la métrique d'Arnaud Daniel, certains la reconnaîtront. Focals yeux, aïsset de braso, peltier au désert, beilou, mon prec se pauso, già qu'amour pertre qu'a tu non te fiso, cor adalit, mai cruz, que salle graso, qu'a esputit, carne secade nuso, en tamaderm ai matrevan sommeso. Cum en la flambin sommeso, ai a plan pugn manejado la braso, che en la carbran destero d'ambro nuso, per tu, cubols, matero trasi pausi, sum pes de dol, sa pastas pro de greso, for la flambo, al bentevri la fisi. A saluts l'armo se fiso, che rent amun, che ia la taulo meso, un got de sang, un pa de santo graso, l'antica scrivo, atiso, già lai brasos, al sel estan, morpe, trepan, si pauso, dan sa feroce al can de l'ombro nuso. Da clamenso, dono nuso, uferiscar ar armo che ti fisos, sul tieu sendaur l'ama d'amur se pauso, al tieu cuman revultado sommeso, d'un cos de mel all'ambro mar de braso, es aur en flambe pamens ortengreso, esperit, sul per l'agreso, dindra il giardì, turno din la carnuso da quel fenno e su una lende braso vendrà lu riu de luz ca tu se fiso per allarga la stundunte la meso un rad de jour din l'umplo nuet se peso da crido e munsi se pauso tru al desir che me spera preso ta mad amor sul cor mieu c'ha se smeso. Selvo de larme giardì de carnuso, desert de senta l'esperizze fiso, tutto matera ta crido ben braso. La prego pause en ton non sabus nuso, dolor de graso, clarude de l'espereso, tutto mormeso, aigo, in la sed de braso.
Face au feu, j'ai soif de braise, dans ton désert ma prière se pose, elle perd amour, dès qu'en toi elle perd foi. Cœur assoiffé, plus crue que celle de Pierre. Crâne explosé, chair nue et desséchée, je reste errance en ta main de silence. Comme, en la flamme insoumise, à pleine main, j'ai manié l'ardente braise en ma chair, étoile d'ambre nue, tout à ton gré, je dépose ma terre, son poids de deuil, sa pâte âpre de friche, hors de la flamme, et la livre au vent ivre. En sa clarté, l'âme avance, cherchant là-haut, les agapes l'y espèrent, coupe de sang et pain de sainte friche, souffle interdit, tu attises déjà, braise, mon pied céleste, ardent marcheur, s'y pose, danse féroce au creux de l'ombre nue. Ta clémence, dame nue, offre un visage à l'âme que tu accueilles. Sur ton sein d'or, la main d'amour se pose, selon ton vœu soumise ou révoltée. Ton corps de miel est une mer de braise, ton souffle flambe au désert, en jardin. Esprit, seul en ce désert, entre au jardin, retourne en la chair nue de cette femme et son souffle de braise, coura ruisseau de jour en toi, confiant pour écarter les murs qui la retiennent. Un trait de jour dans l'ample nuit se pose. Ton appel en moi se pose. Désir tonnerre au désert qui m'espère. Ta main d'amour est déjà sur mon cœur, forêt de l'âme et jardin de chair nue, désert des sages aux orients de l'esprit, toute ma terre à ton appel s'embrase. Prière, pose en ton nom sa voix nue, douleur terrestre et sa clarté défie toute mort mise haut dans la soif de braise. La dame des illustrations, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire, bon, c'est là, ce que tu vois,
c'est la figure de l'âme. C'est ce qui nous anime, voilà. C'est ce qui nous pousse en avant, et évidemment, ça ne pouvait pour un homme comme moi n'être qu'une dame.
Oui. D'accord. Alors, Franck, avant de poursuivre, petite question. Tu as écrit un article sur Ninelli. Sur les troubadours, l'influence des troubadours dans le XXe siècle, dans les poètes du XXe siècle, hein, dont nous avons parlé ici, bien sûr. Et quelle est, moi je te pose la question, alors quelle est l'influence des troubadours sur ta création personnelle?
Bon, sur ma création personnelle, d'abord on parle de création, on ne parle pas de vie intime, mais il y aurait beaucoup à dire là aussi. À savoir simplement que ce n'est pas juste un exercice d'application et d'imitation d'un mode médiéval de poésie, même si, bien entendu, il y a une dimension expérimentale au départ, je m'étais intéressé aux troubadours, en tant qu'ils étaient pour moi les premiers auteurs de poésie occitane ayant retenu mon attention. J'ai commencé par eux, et quand j'ai commencé à écrire en occitan en 89, je faisais moult archaïsme médiévisant dans mon occitan moderne, que des gens bienveillants et fort avisés comme André Lagarde m'ont aidé à corriger, notamment pour la revue Gaïsabé dont on reparlera. Oui. Mais il y a également un exercice de style, c'est-à-dire que il est extrêmement difficile d'imiter formellement les troubadours. Les imiter formellement, comme pour la Sextine que l'on vient de lire, c'est quelque chose que les Italiens affectionnent, que de nombreux auteurs à travers l'Europe et le monde affectionnent, parce que c'est un genre un peu difficile, mais pardon, c'est aussi un exercice extrêmement intéressant puisque les mots sont déjà choisis au départ. pour leur homophonie, plus ou moins, leur ressemblance, et éventuellement leur jeu d'opposition dans les sens, ce qui n'est pas forcément le code d'Arnaud Daniel. Néanmoins, une fois que ces mots sont posés, il faut que les phrases tombent sur ces mots au bon endroit et au bon rythme. Ce qui oblige, contrairement à ce qu'ont pu penser les suivants d'André Breton, grâce à une contrainte formelle, à aller explorer les méandres du langage et de l'inconscient qui le suscite, par des chemins que nous n'aurions jamais suivis. En sachant simplement se libérer du formalisme sémantique rationnel et du temps linéaire passé, présent, futur. C'est un exercice auquel peut-être René Nelly n'aurait pas souscrit, puisqu'il ne voulait pas d'une poésie formelle. Il voulait quelque chose de rythmé, parce que le rythme fait se dresser l'esprit, met l'âme debout et aux écoutes de quelque chose qui la dépasse. Donc le rythme est important. Après, le formalisme, les rimes, tout ça s'agaçait un peu. Pour bien imiter les troubadours, au début, je reprenais, par exemple, les formes rimées, les structures des poèmes de Peyre Vidal, troubadour toulousain, que j'aimais beaucoup. Et puis un jour, j'ai lu des traités fort savants sur le sujet, m'indiquant que chaque troubadour, devant chaque nouvelle cansou, se devait d'inventer de nouvelles formes. Ce à quoi j'ai longtemps joué. Voilà, ça c'est pour la forme. Pour le fond, ben, il faut savoir que quand je suis devenu occitan dans mon cœur, que j'ai cessé d'être passivement français comme on voulait que je le fût, pour devenir un occitan actif, j'ai commencé par constater que je n'étais pas fou, mais amoureux à la façon des troubadours. Je n'inventais pas des problèmes où il n'y en avait pas, j'avais simplement leur sensibilité en partage. Et donc évidemment, quant au fond des vocations érotiques et des vocations sentimentales, je suis totalement et humblement à leur école. Ça c'est clair. Même si par l'école du symbolisme, je vais quelquefois quand même beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient suggéré, en récupérant leurs termes, leurs concepts, mais pour en faire autre chose. Ça c'est de l'alchimie. Et c'est une autre page d'écriture.
Oui, ce qui est tout à fait normal, parce que, bon, imiter pour imiter, ça n'a aucun sens.
C'est une école, oui, on apprend
oui,
comme
oui,
ça.
Oui, mais tu, dans l'imitation, tu vas plus loin aussi. C'est-à-dire qu'il y a une transformation. Voilà. Il y a une transformation. Sans quoi on fait que de la reproduction.
Hein, on fait des gammes, voilà, hein. Voilà, et ensuite voilà. On apprend à se laisser aller, à se lâcher sur le piano et à composer des mélodies qui nous étonnent nous-mêmes. C'est le but. Au départ, il faut faire des gammes. Et j'ai fait des gammes avec les troubadours.
Alors, on va t'écouter. Et après, tu nous parleras, c'est vrai, des revues que l'on a évoquées tout à l'heure.
Alors, je vais dire à la page 53, je ne me trompe pas, du même recueil, Feu dans les yeux, j'ai soif de vraise, quelque chose qui est proche de la conclusion du cheminement spirituel décrit par le livre, en citant tout d'abord Farhad Oddin Attar, qui est un poète persan particulièrement référent, que j'ai étudié avec Manigé, j'ai eu beaucoup de chance de la connaître pour étudier ce poète. Et j'espère un jour partager le micro avec elle et toi, ça, parce que nous avons beaucoup de choses à partager en poésie.
Oui.
M'occupa de faver se fuguet pretexte ban, per num encamina cap a tut din la via, tan como es fulum de sagaita se meteis. Farhad Oddin Attar. Pusco sui, sunque, al sulie de ta porto, e l'umbra amara al sulel non pot giugne qu'une suspi desesperats e bans, morta s'asset abans da ta fun beure. Non te sui res un tu mestuzzo mai, che te purgi per pla muminanaggia, ieu che non hai di laimas che du bent, ta pel d'amor en sul l'umbert mi scaffo. Farai un vers de gute innamorato da ballamar de ta grazia infinito e che intendras de ma busa mudido. Un te soi tut, tut a be, mes lo mond. Quem bal facin en foro de tus uels? Bagno me tut, amadou, che eu te bagne.
M'occuper à faire des vers fut un vain prétexte pour ne pas entrer résolument dans cette voie, comme c'est une folie que de se regarder soi-même. Farid Udd Din Attar. Je suis poussière au seuil de ta maison, et l'ombre amère au soleil ne peut joindre que ses soupirs désespérés et vains, morte à ta soif, avant dans tes mains boire. Je ne suis rien, où tu mets tout le reste. Or, que t'offrir pour bien te rendre hommage? Moi qui n'ai guère en la main que du vent, ta peau d'amour en sa verdeur m'efface. Je t'écrirai comme goutte amoureuse devant la mer de ta grâce infinie. Qu'entendras-tu? Ma voix n'a plus de force. Où je suis tout, toi aussi, tu m'es tout. Que vaut mon charme hors de ton doux regard? Baigne-moi toute amant, que je te baigne. Alors, Farid Udd Din Attar fait partie également de ces poètes qui sont considérés maintenant comme des hérésies, hein, quand même. Hein, pas oublier ça.
Ce sont des soucis. En gros, ils travaillent, me semble-t-il, même si mon ingénieux serait ma plume, sur le Vajada Vujut, c'est-à-dire l'un sans limite. On perçoit l'unité, il n'y a plus rien d'autre à percevoir. On ne se perçoit plus parce qu'il n'y a que l'unité. C'est quelque chose de vertigineux.
Alors là, oui, on est dans la poésie métaphysique totale, là, hein, absolument. Alors, avant, si tu veux bien, pour ne pas oublier, je voudrais simplement que tu nous parles, on va continuer ensuite, le tour donc de tes poèmes dans ces recueils, mais je voudrais que tu nous parles de ces revues-là.
Alors, La Sœur de l'Ange est une revue qui paraît au nord de la Loire, dans une terre exotique nommée France, à Paris autant que je sache, et qui publie des pensées, des textes d'auteurs morts, d'auteurs bien vivants, rassemblant par exemple ici « À quoi bon l'éternité ?» autour d'une question généralement amorcée par « À quoi bon ?» et qui se veut un cahier de pensées unique. Ce qui est assez amusant, on y trouve des léopards, des gens tourmentés, des gens désespérés, mais qui ont quand même quelque chose à apporter de très nourricier. Et il consacre en chaque numéro, on est ici au numéro 15, on espère que la revue va trouver de quoi rebondir puisqu'Hermann vient de l'abandonner et qu'il lui faut donc trouver un autre support d'édition. Elle en est à son numéro 15, elle est annuelle, elle est parue ici au printemps 2016. Elle consacre un cahier à chaque numéro relatif à un auteur ou à une ligne de pensée. Ici, depuis les deux derniers numéros, le 14 et le 15, il y a eu un cahier René Nelly, dans lequel des gens éminents comme Philippe Gardy ont réussi à participer et à donner à entendre témoignage de l'œuvre de Nelly. J'ai moi-même apporté une petite contribution qui est plus philosophique que littéraire, puisque j'ai, en évoquant la sentinelle du château foudroyé, donné à sentir la patte philosophique de sa poétique. Il disait, Nelly, que la poésie enveloppe ce que la philosophie humblement s'exerce à développer. Ce qui n'est qu'un point de vue, bien entendu. On peut approcher la poésie tout autrement. Mais c'est l'une des manières avec laquelle j'aime aborder la poésie. Essayer de circonscrire quelque chose de monstrueusement compliqué à raconter en quelques mots bien positionnés pour créer l'image qui donne du sens. Et impliquer le lecteur au lieu de l'expliquer des choses. Voilà, c'est cette démarche que véhicule La Sœur de l'Ange. Je souhaite une longue vie à cette revue.
Alors, c'est une revue qui fait combien de pages là? Il y a 300, plus de 300.
Oui, 340 pages. C'est chaque fois de très beaux volumes.
Hein, voilà, c'est un vrai livre. Hein.
C'est une revue qui mérite d'être connue. Oui. J'évoquerai rapidement
La Sœur de l'Ange. Oui. Alors, Hoc. La revue Hoc.
Alors, la revue Hoc est la revue laboratoire de l'écriture un peu inventive, un peu expérimentale occitane, moderne. Elle existe depuis bientôt un siècle. Elle rassemble des plumes toutes neuves, des plumes déjà bien arriérées. Elle a été longtemps l'organe respiratoire de Bernard Mancier, l'insoumis des Landes, le poète insurrectionnel. Il était magnifique. Aujourd'hui, la revue est dans les mains de Frédéric Fichac, qui se charge de la composition et qui propose désormais de travail photographique comme celui qui accompagne mes poèmes.
Oui, alors, c'est un numéro dans lequel tu as participé,
oui,
d'une façon quand même assez originale.
Voilà.
Parce que là aussi, on a
une autre
facette de ton talent et de
des
ton travail.
D'art que hein, je,
dans
que
des photos d'art.
Je voilà. fais de la photo depuis oui. l'âge de 12 ans. C'est mon père qui m'a passé cette passion.
Ah, oui.
Les occitanistes commencent à connaître un petit peu mon travail de photographe, un petit peu, parce que je ne publie pas tout, loin s'en faut, grâce à Internet. Les photos sont en ligne sur Internet.
Ah, bon,
et on pourra en renseigner.
Oui, 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 tout à fait.
Radio
tout à fait.
Si
notre site aussi, les-boîtes.
Et donc, je contribue humblement à la revue Hoc en proposant de temps à autre des photos. J'ai déjà une petite sélection pour accompagner les traductions de l'arabe et du français à l'occitan de poèmes d'un soufi qui s'appelle Saddam Ben Baba Ali, et qui a été le directeur d'un master 2 d'études de littérature comparée, poésie des troubadours, poésie arabo-andalouse, effectuée par Cléa Bergerot, dont nous nous entendrons parler probablement à Radio Occitanie, parce qu'elle nous prépare une révolution épistémologique. Et puis je veux évoquer rapidement la revue Lugaï Sabé, que Philippe Carbone m'a chargé de rédiger, ce que j'essaie de faire humblement. Je suis co-rédacteur, disons, il fait toujours un énorme travail, et je suis toujours très humble, je suis surtout un homme de contact, pour essayer de contacter des jeunes plumes, des vieilles plumes qui ne se montrent plus. Et la revue Lugaï Sabé, par rapport à Hoc, a plus à voir avec un magazine qu'avec une revue littéraire, même s'il y a dedans de la littérature. Son but étant d'explorer tous les champs lexicaux possibles dans une page écrite en occitan. On peut donc y parler d'informatique, de géologie, d'astronomie, pourquoi pas d'astrologie, s'il y en a que ça amuse. L'essentiel étant que ce soit rédigé en occitan. Voilà. On y met aussi un peu d'actualité littéraire en faisant le relais des publications, comme tu fais toi-même avec ta belle émission radio. Voilà un peu les trois revues auxquelles récemment j'ai contribué. J'ai contribué aussi au spectacle de Gérard Zucchetto qui s'appelle Ode à Montségur, qui a donné l'objet d'un disque, en lui proposant une approche, une analyse que l'on pourrait dire symboliste de l'œuvre Ode à Montségur, puisque c'est une œuvre qui ressemble à un puits vertical ascendant dans lequel on tombe vers le ciel. Lorsqu'on lit le poème de Nelly, il m'arrache des larmes. Et Nelly a été mise en musique par Zucchetto d'une manière magistrale et irrévérente, puisque au lieu de nous livrer un cénotaphe des pauvres cathares morts à Montségur, il nous livre des chansons guillorettes et même souriantes, comme l'était presque toujours René Nelly, qui avait beaucoup d'humour, et quelquefois un humour charmant et grivois. Il aimait les jeunes filles à tout égard, y compris dans la plaisanterie, et ainsi le musicien a réussi à lui rendre hommage d'une manière inattendue.
Et qu'il aurait certainement beaucoup apprécié.
Je le suppose, enfin, je me plais à l'espérer. On fait le plus de travail possible sur sa mémoire, ben, l'association d'études du catharisme, l'association René Nelly, qui chaque année propose au moins 7 ou 8 séances publiques sur le terrain de l'Aude et des départements avoisinants, pour donner à connaître le passé médiéval de l'Occitanie, à l'aide d'historiens et de conférenciers patentés et rationnels, mais également à l'aide de la littérature que j'essaie de relayer comme tu le fais, directement en public. Je lis dans des églises des poèmes surréalistes totalement révolutionnaires, et la révolution surréaliste méditerranéenne des Cahiers du Sud entre dans l'église pour charmer les spectateurs mieux que ne le ferait une baratin sur Dieu, je le pense.
Merci beaucoup. Alors, on prend pour cela. On va reprendre, malheureusement, je vois que le temps passe vite. Il nous reste 8 minutes. On va reprendre, donc, tes poèmes, là où tu l'attendais le moins, peut-être, si tu veux bien.
Très exactement. Et j'aimerais...
Alors, de quoi s'agit-il, là? Est-ce que c'est qu'en deux mots?
Alors, la forme est un peu différente. Oui. C'est, oui. un recueil, on a dit un livre, il faut bien se reprendre. C'est un livre constitué comme un mandala, avec une rosace astrologique, qui donne, ce n'est pas que je crois particulièrement à la capacité prédictive de l'astrologie, je n'en ai pas grand chose à faire, de toute façon prédire la fatalité, qu'importe qu'on l'ait prédit ou pas, c'est la fatalité, elle nous tombe dessus, on la prend comme une claque, un jour il a fallu que je naisse, je ne l'ai pas choisi, Dieu m'en est témoin, enfin je ne sais pas s'il était là quand je suis né, ça m'étonnerait parce que je me sens un peu abandonné de lui en ce monde. Toujours est-il que cette rosace nous permet d'explorer les grandes tendances, les grands courants, les grands positionnements de l'inconscient collectif. Les explorer tous, au lieu d'aller uniquement là où ça nous est confortable, était l'idée de ce plan, qui est préfacé directement à la première page, on voit le plan du recueil, avec les planètes, les fixes, les mobiles, évidemment, au centre les éléments, et au milieu du centre l'indicible, que certains appellent le cinquième élément. Pourquoi pas, si ça leur fait plaisir, il faut bien y donner un nom, il n'en a pas, donc... dès qu'on parle, on manque quand on dit ce genre de choses. J'aimerais, si c'était possible, puisqu'il faut choisir un passage... J'ai été préfacé par Hésiode, j'ai eu beaucoup de chance, qui annonçait déjà des choses absolument charmantes, que je me suis empressé de reprendre, parce que c'était des pensées iniques comme celles de la sœur de l'ange. J'aimerais, si l'on pouvait, évoquer le dernier des textes du recueil, de livres, qui sert un peu de conclusion et qui donne son sens au recueil. Parce qu'enfin, là où tu l'attendais le moins, mais qui attendais-tu? À qui fallait-il s'attendre? Le recueil est construit en rectus et inversus, ce qui est à l'endroit, ce qui est à l'envers, ce qui est à l'endroit est généralement nostalgique et tient à un passé imaginaire, ce qui est à l'endroit c'est la description du réel et du quotidien. Et les deux s'affrontent poétiquement, jamais l'un sans l'autre. Je vais donc donner à entendre la dernière de toutes les inversions, qui est vraiment la plus dramatique, et sa réponse dans l'inversion, qui remet les choses à l'endroit. Cussi l'aurion pogut entendre, curo benguet, già che raki, el che sempre demurara. Su la gran lauso de betum pamens, tra los funs, che secudo la terra tutto, l'ustal flambo, sendre casud, non sapunt, ta terra è sperduto per sempre, già che pare mai non incunto è in foro della forza cruso. L'ulu negro des pneumatix brandana al sin della carriera, te fa un sinne capalier, e un altro capa de ma, tan pudento de tut custat, cum al fifus del deu cap triste, triste, desfaits de tutto guerro, tirassà de tutto l'assiero, sadulas di maggio de ciul, l'usuel suzero de leggeso. Tutso bastizius l'hai mirado sabauso, sen dunare mai, che lo remembre stumagat d'un ten, che tut marciava in carro, senza becussi ni perché, immagine d'un mung avanzavo. Re non avanzo mai, escuto, la tifo tafo del cortieu, caurio bulgu d'un altro bido, che la de cure jamais las. Quand tout acquittat de l'usi, quand tout s'écale à la perfi, quand tu n'escuragno tutalo, sans or ni bas, ni mai demain, quand on quitte nun s'est perdut, à cops de caps per les muraglios, à quel murmul de senta freulo, que te ben belzuels agafat, al dus infinits insuscafle, contemple lo lume impossible. Brandante gelat, cristalling, cum aigo din la marte beso, rufe brau, subere fi secret, tout d'amour pastat de merci, bei lu se dusta din ton si, cum o destral per miege del cap. Improbable, incommensurable, lu qui disse creir mentidu, già che re non lo pot cu sebre, pas el qui tomen cu fa tut. Inversus. La zen là, tout so concevable, à qui un mens tu l'esperavo, il vendra tout seguromen, comme lui ben entre i brancos, a cranco l'usuel d'anche surro, che ti valdrio de veira pres.
Rectus. Comment aurait-il pu l'entendre? quand il vint, quand il était là, lui qui toujours y restera. Sur la grande dalle en béton, pourtant, à travers les fumées qui secouent toute la terre, la maison flambe. Sans de tomber nul ne sait où, ta terre est pour toujours perdue, car plus rien ne peut y compter en dehors de la force brute. L'odeur noire des pneumatiques, brûlant au plus haut de la rue, te fait un signe vers hier, et un autre aussi vers demain, aussi puante qu'on se tourne qu'au fond de ta tête si triste. Triste, défait de toute guerre, tiraillé de toute fatigue, saturé d'images, de culs, les yeux sont usés de laideur. Tout ce qu'on bâtit sur l'image s'effondre sans plus rien donner que le souvenir stupéfait d'un temps où tout allait encore sans savoir comment ni pourquoi, image de monde en progrès. Rien n'avancera plus. Écoute, les palpitations de ton cœur qui aurait rêvé d'une autre vie plutôt que de courir en vain. Quand tout a cessé de briller, quand tout à la fin fait silence, dans une obscurité totale, sans haut ni bas, ni lendemain, quand ton nom même s'est perdu à coups de crâne dans les murs, ce murmure de sens si frêle qui vient te prendre par les yeux aux deux infinis impensables vers la clarté de l'impossible, brûlant et gelé, cristallin, comme l'eau de mer la plus tiède, rude et sauvage, secret le plus subtil, tout pétri d'amour et de grâce, vois-le se verser en ton sein comme hache au milieu du front. Un probable incompréhensible, qui dit croire est un menteur, car rien ne peut le concevoir, pas même lui qui tout conçoit. Inversus. N'est-il pas au-delà de tout? Là où tu l'attendais le moins, lui viendra très assurément comme le vent entre les branches. Ouvre tes yeux tant qu'il est l'heure. Après, que te vaudrait de voir? Là où tu t'attendais le moins. Alors, on répète les titres. Franck Bardou. Alors, je tiens tout de suite à dire à l'ensemble de nos auditeurs que l'ensemble des livres dont nous avons parlé sont en bilingue, hein, c'est-à-dire français, occitan. Donc, accessible à tout le monde, hein, accessible à tout le monde. Ceux qui balbutient un peu dans l'occitan, c'est excellent, hein, et ceux qui éventuellement ne comprennent pas l'occitan, c'est à lire aussi, puisqu'il y a la version française. Hein. Moi, je lis, par exemple, beaucoup de livres en bilingue, de langues dont j'ignore tout, mais j'arrive tout à fait à pénétrer l'auteur. Donc là, je voudrais saluer quand même ce travail, qui est très très bien ce que tu fais, Franck, parce que tu donnes les versions dans les deux langues. Alors, évidemment, je pense qu'il y a un travail de traduction qui est long et prenant et qui est bien fait. Hein. Je vois comment souvent tu remets des rimes, etc.
Qui fait partie du travail d'élaboration de la poésie. Voilà. À la lumière de la première traduction, quelquefois l'occitan se modifie.
Oui.
Pour être moins coquet et plus sensé.
Et oui, tu nous en avais déjà parlé de ça. Oui, oui. C'est étonnant.
C'est l'école de Nelly. Je l'ai inventé.
Alors, Franck Bardou, tout ça est à vos étourbats. Hein. Chaque recueil vaut 15 euros. C'est Chansonnier d'un temps est perdu, je le dis en français. Là où tu l'attendais le moins. Et Feu dans les yeux, j'ai soif de braise. Et puis, bien entendu, les recueils dont tu as parlé tout à l'heure. Et vous trouverez toutes ces références dans le compte rendu que nous ne manquerons pas de faire de cette émission et que vous trouverez dans les-poètes.fr. Merci beaucoup, Franck. Et al cop que ven,
al cop que ve vos serà totes.
Aleu leu,
eh?
Aleu leu. Aleu leu. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et vous nous disons, comme toujours, à la semaine prochaine. À du sas.
Nos horizons d'émeraude et de cuivre. Les gens bien assis, exempts de soucis, ne doivent pas poursuivre.